Alors, on s'est pas concerté avec Patrick pour la présidence et le message, mais le chant, j'aurais pas mieux choisi que le chant que tu as fait en dernier pour introduire le message que je vais vous partager ce matin. Alors, récemment, j'ai lu un article qui a été écrit par Philippe Viguier, pour pas le citer, et avec comme titre Offrir un culte ou assister au culte. Et cette question, elle m'a interpellé. Alors, je ne vais pas faire une redite de l'article, hein, ce n'est pas du tout le but. Je me suis juste inspiré du titre de l'article pour écrire ce message. Et parce que par habitude, je vais dire plutôt je vais à l'église ou je vais au culte. Sous-entendu, je vais assister à un culte ou je vais assister à un culte. Et bien que la façon dont on dit parfois par habitude les choses ne reflète pas parfaitement ce que l'on pense ou ce que l'on voulait dire de manière parfaite, ça m'a vraiment interpellé cette question. J'ai trouvé super intéressante et profondément importante dans notre vision de l'Église. Parce que je pense que dans notre société, nous sommes sans cesse emmenés à consommer quelque chose. Lorsque on va au restaurant, par exemple, eh bien, on consomme évidemment un bon repas, mais normalement en tout cas, on consomme également un service. Moi, j'aime bien, je suis très attentif au service. Je trouve que c'est aussi important que le plat que je vais manger. Et ouais, on s'attend à être bien servi bien accueilli pour passer un bon moment où l'on n'a rien à faire, pas à préparer à manger, et où on peut profiter pleinement de ce que l'on a dans notre assiette et aussi des gens qui éventuellement nous accompagnent. Mais c'est la même chose dans plein de domaines, presque tous les domaines. Citer quelques exemples, hein, au cinéma, un concert ou à n'importe quel événement, eh bien, c'est un petit peu la même chose. Et dans mon métier aussi, c'est tout à fait ça. Toute notre société, elle est réglée sur ce modèle. On parle de société de consommation, on donne quelque chose, de l'argent la plupart du temps, et on reçoit quelque chose, pour recevoir quelque chose. Et donc, bon, je ne suis pas en train de faire de la politique ou quoi, de dire si c'est bien ou si c'est pas bien. On vit dans une société qui est ce qu'elle est. Mais ce modèle de société, qu'on le veuille ou non, eh bien, il est ancré en nous. Il fait partie de notre quotidien. Et si je vous parle de tout ça, c'est parce que cette question du début laisse entendre qu'il y a deux approches, deux façons d'aborder le dimanche matin, plus généralement l'Église. La première, c'est celle que je viens de vous parler, celle que l'on retrouve dans notre société, comme lorsqu'on va au restaurant ou à un concert ou chez le pâtissier. Et la deuxième, c'est celle qui suggérerait que l'on offre quelque chose à Dieu. Alors, je vous invite à prendre un passage dans la parole qui nous parle justement de ce qu'est l'Église et qui nous permettra de répondre un petit peu à cette question si importante. On va prendre donc dans 1 Pierre 2 des versets 4 à 10. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, je mets dans Sion une pierre angulaire choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi la pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole, et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Donc on va voir ce texte nous sommes des pierres vivantes, que Christ est la pierre angulaire et qu'il est aussi une pierre sur laquelle on peut trébucher. Et enfin, nous allons voir que nous sommes des pierres choisies et avec à chaque fois cette question, aller au culte ou offrir un culte. Donc on va commencer par le premier point. La première chose qui me semble importante de préciser, c'est que Pierre, il s'adresse à des croyants d'origine juive disséminés dans l'Asie mineure. L'Asie mineure, ça correspond à peu près à la Turquie actuelle. Et pourtant, ce passage, il commence par « Approchez-vous de Christ ». Moi, ça me semble un peu étrange, au premier abord, qu'en s'adressant à des croyants, ils leur disent « Approchez-vous de Christ ». Mais en fait, on pourrait dire que Pierre, pour prendre une expression, on va dire courante, je pense que vous la connaissez tous, on pourrait dire qu'il commence par remettre l'église au milieu du village, si je peux me permettre l'expression. Il commence par remettre les choses en perspective et rappelle où est finalement le commencement de toute chose, le commencement de la vie chrétienne. Car en effet, la seule porte d'entrée vers son royaume et la vie éternelle, c'est de s'approcher de lui, c'est de l'accepter en tant que Seigneur et Sauveur. Et clairement, Pierre s'adresse à des croyants, mais des croyants rassemblés dans le nom de Jésus. C'est l'Église des premiers siècles, car auparavant, le salut de Christ, était réservé à son peuple, aux Juifs. Mais grâce à la venue de Jésus, à sa mort et à sa résurrection à la croix, le salut s'est ouvert à tous les hommes. Et on voit dans ce texte que Pierre parle de l'Église, ou plutôt des membres de l'Église, comme étant des pierres vivantes. Et comme dans la construction d'une maison, finalement, les pierres sont assemblées les unes aux autres, et bien que différentes, elles forment une unité. Elles forment un mur où chacune des pierres est solidaire de l'autre. Et toutes ces pierres sont assemblées pour former la maison de Dieu, l'Église, qui n'est pas simplement un bâtiment, bien sûr, mais une assemblée de croyants unis à Christ. Et on voit dans ce texte se dessiner un peu, par le début de ce texte, se dessiner un peu ce qu'est l'Église que Christ a voulu pour ses enfants. Et si je reviens à ma question du début, on peut voir qu'à partir de la fin du verset 5, il y a la notion d'offrir quelque chose. L'offrande, c'est quelque chose de très présent dans la Bible. On la retrouve à de nombreux endroits. Dans l'Ancien Testament, il est question d'offrir le meilleur des récoltes à Dieu, d'offrir l'animal sans défaut, etc. Mais aussi dans le Nouveau Testament, avec l'offrande des mages, par exemple, à Jésus, ou encore l'offrande de Dieu pour tous les hommes, à savoir son Fils unique. Et ce texte, il nous exhorte à offrir des sacrifices spirituels, à venir à l'Église en quelque sorte les mains pleines. Autrement dit, à offrir notre adoration, notre louange et toutes bonnes œuvres que l'on peut faire, mais aussi sacrifices de service envers l'Église et aussi financier. Et venir à l'Église les mains pleines ne signifie pas non plus repartir les mains vides, car nous pouvons être reconnaissants pour tout ce que nous recevons, pour tout cela, mais pour reprendre les mots d'un vieux cantique, apprenons à compter les bienfaits de Dieu. Et venons avec une attitude de reconnaissance, une attitude d'adoration, de louange, de service, de générosité et d'entraide, car tout cela est agréable à Dieu. Et comprenez bien que lorsque je parle d'église, je ne parle pas simplement de l'église locale, mais je parle plus généralement de tout ce qui forme l'église, donc toute sa complexité. L'église, comme je l'ai dit précédemment, c'est l'assemblée des croyants en tout temps, en tout lieu et en toutes œuvres agréables à Christ. Et Hébreux 13, versets 15 et 16 nous dit ceci. Par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Et bien que Christ soit semblable à nous par son sacrifice à la croix, il soit semblable à nous, pardon. Donc, bien que Christ soit semblable à nous par son sacrifice à la croix, il a néanmoins une place toute particulière dans la construction de son Église. Il est présenté à partir du verset 6 comme la pierre angulaire. En construction, la pierre angulaire, c'est la pierre sur laquelle on base tout le reste de la construction. Et elle est souvent imposante, elle est souvent plus grosse que les autres, elle est souvent bien taillée, et dans les constructions anciennes, elle est souvent même mise en valeur. Sur les angles des maisons, on voit les pierres qui ressortent par rapport aux autres. On les taille en bossage pour les mettre, pour les faire ressortir. Et il en est de même pour Christ. Il est la pierre sur laquelle on construit la maison de Dieu, mais plus généralement sur laquelle chaque croyant construit sa vie. Et il devrait être mis en valeur aussi bien dans nos vies personnelles que dans l'Église. Car, oui, l'Église peut délaisser cette pierre angulaire si importante, comme on peut voir un exemple dans la parole, dans l'exemple de l'Église de Sardes dans l'Apocalypse, dont il est dit au chapitre 3. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Et nous avons besoin d'être vigilants, que ce soit en tant qu'Église ou dans notre vie personnelle. Le diable est décrit dans la Bible de plein de manières différentes, mais une qui peut-être qui me parle plus que les autres, c'est comme un lion rugissant qui n'hésite pas à attaquer l'Église voulue et créée par Dieu. Parce que l'Église, bien que voulue par Dieu, est constituée d'hommes pécheurs qui ne sont pas parfaits, loin de là. Et bien que nous sommes tous rendus saints par Christ, ça ne signifie pas que nous sommes rendus parfaits, mais bien rachetés et dignes d'appartenir à Christ. Car Christ, c'est pas seulement une pierre angulaire, il est une pierre choisie et précieuse, tel un trésor pour chaque croyant, un trésor inestimable et précieux qui devrait toujours trouver une place de choix dans nos vies et dans l'Église. Alors du coup, offrir un culte ou assister à un culte? On peut dire qu'il est bon d'assister au culte avec joie et fierté, la fierté d'appartenir à Christ et la joie d'être racheté et d'être enfant de Dieu. Mais il est nécessaire de mettre Christ au centre de toute chose, car Christ est la pierre angulaire, la pierre sur laquelle son Église est bâtie. Et ainsi, Christ doit être au centre de notre service, de notre louange, de notre adoration, et bien sûr, au centre de nos vies, afin qu'il puisse rayonner en nous et au travers de nous, qui constituons le corps de Christ. Alors, cette pierre si précieuse pour ceux qui acceptent de suivre Jésus-Christ est aussi une pierre sur laquelle on peut trébucher, sur laquelle on bute si on n'accepte pas Jésus-Christ dans nos vies. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu, nous dit 1 Corinthiens 1 au verset 18. Et cette pierre angulaire qui est la pièce maîtresse de l'Église, elle est par ailleurs la pierre rejetée par ceux qui ne croient pas. Mais ce passage nous montre qu'il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Elle est synonyme d'espérance pour les uns et de folie pour les autres. Pourtant, chacun a la liberté d'accepter cette pierre dans sa vie ou non. Et pour illustrer un petit peu ça, une image est toujours imparfaite, mais je trouve ça des fois plus parlant de parler d'une image, de vous montrer une image. Mais je ne vais pas vous montrer une image, je vais vous raconter une image. Je sais que c'est un peu tordu, mais en fait, je n'ai pas d'image, tout simplement parce que je n'en ai pas trouvé. Et parce qu'elle est juste dans ma mémoire. Je regardais en fait par la fenêtre du bus quand je revenais en traversant une région qui s'appelle l'Ayrshire. Je pense que ça se prononce à peu près comme ça. En tout cas, de la région autour de la ville d'Ayr, A-Y-R, Ayrshire. On va dire ça comme ça pour aujourd'hui. Et donc, le long de la route, sur quelques villages, il y avait plein de maisons avec chacune un joli jardin. Vous savez comme ça se fait. Les Anglais, ils aiment bien leurs petites maisons avec leurs jardins très carrés, très fleuris, tout impeccable, les petits cottages, les maisons et tout. Très mignon. Mais ce qu'il y avait de particulier à cet endroit-là, c'est qu'il y avait plein de gros rochers, un peu de toutes les tailles, mais il y avait vraiment des très très gros rochers, plutôt gros comme une voiture, voire comme une maison, des bons rochers. Et les habitants de ces villages, ces quelques villages au bord des routes, au bord de la route que je traversais, ils ont construit leur maison et leur jardin avec ces rochers, en fonction de ces rochers, en fait. Et plutôt que de chercher à les enlever ou, je sais pas, à aplanir les terrains, non, ils ont construit avec. Il y avait des maisons qui étaient construites vraiment contre, avec une partie du rocher qui faisait le mur de la maison, ou dans leur jardin, ils mettaient des fleurs dessus les rochers. C'était très, très particulier comme concept. Et ils ont construit donc autour et en fonction de ces rochers. Et plutôt que de voir ces rochers comme des éléments à enlever, ils y ont fait des atouts, finalement. Des atouts pour leur jardin et leur maison, en les intégrant dans leur construction. Et je trouve cette image très parlante, car elle montre à quel point ce que l'on peut voir comme quelque chose d'inintéressant, quelque chose que l'on cherche à supprimer, à enlever, peut en fait devenir une pièce maîtresse, un élément ô combien joli et finalement indispensable pour construire quelque chose d'harmonieux. Et est-ce que ce ne serait pas l'illustration de ce qu'est la folie de la croix, finalement ? Alors, assister à un culte ou offrir un culte, ce que l'on peut dire, c'est que nous avons ce devoir en tant que croyants, d'une part, et en tant qu'Église, d'autre part, d'être des témoins visibles de Jésus-Christ. Car, bien que la prédication de la croix soit une folie pour certains, que cette pierre si précieuse et importante pour ses enfants soit une pierre d'achoppement pour beaucoup, cette prédication reste le seul moyen de salut pour tous les hommes, le seul chemin qui conduit à la vie. Alors, proclamons sans cesse cette folie de la croix et construisons l'Église autour de Jésus-Christ et avec Jésus-Christ. Comme les habitants de l'Ayrshire construisent leur maison autour et avec ces gros rochers, mais pas seulement pour notre propre besoin spirituel, mais aussi pour répondre aux besoins des autres, de ceux qui sont en chemin vers ce trésor, de ceux qui n'ont pas encore fait ce pas. Ça nous demande parfois de sortir de notre petit jardin confortable et harmonieux, de sacrifier peut-être un peu de notre temps, de notre argent, de notre confort, pour aller vers ceux qui aujourd'hui considèrent cette pierre angulaire et précieuse comme une pierre d'achoppement, une pierre sur laquelle ils trébuchent. Alors à partir du verset 9, Pierre nous dit « Vous êtes un peuple choisi ». Alors la notion de peuple choisi, c'est une affirmation qui fait parfois un petit peu grincer quelques dents en pointant du doigt une forme d'élitisme, une forme de supériorité des chrétiens par rapport aux autres. Bien évidemment, il n'en est rien. Et pour illustrer ça, je vais encore prendre une image, toujours en lien avec les pierres. Je ne sais pas si vous avez déjà pu voir ça. Tu peux passer, je pense. Non, je ne sais plus. Non, du coup, c'est... Attends. C'est le poste suivant. On est sur... Non, après. Encore. Voilà. Voilà. Donc, il y a sur le premier plateau de Lons, notamment au-dessus de Baume-les-Messieurs, mais il y en a ailleurs, et si vous allez un peu plus loin, de le Haut-Jura, il y a beaucoup de murs en pierre sèche pour barricader les clôtures, et aussi des petites maisons, des petites cabordes, on appelle ça des cabordes. Il y en a aussi pas mal dans le nord de la région lyonnaise. Et donc, ces cabordes, c'est des petits abris, donc toujours en pierre sèche, construits sans mortier, il n'y a pas de ciment ou autre, juste avec des pierres empilées, qui permettaient aux bergers de s'abriter en cas de mauvais temps. Et ces pierres utilisées pour ces murs, ces cabordes, est-ce que vous savez où les gens allaient les chercher ?
Dans les champs.
Ouais, exactement, dans le champ à côté, juste là, en fait. Ils n'allaient pas les chercher très très loin, elles étaient juste là, et ils les prenaient simplement et ils les utilisaient pour construire des murs, pour délimiter les clôtures, les terrains, etc. Et ces pierres, donc, ils les ont choisies, utilisées pour construire des murs, pour délimiter leurs parcelles et leurs abris. Pourtant, elles sont toutes différentes, elles sont en général assez plates, mais elles sont quand même assez différentes. Et pour avoir pu voir comment on construit un peu ce type de mur, je peux vous dire que c'est un long travail, c'est pas si simple que ça. Et chaque pierre, elle est examinée, elle est retournée, on la pose de côté, on la reprend après. On choisit ces pierres en fonction de leur taille, de leur forme, de leur épaisseur. Et pourtant, bien que chacune soit différente, eh bien au final, chacune de ces pierres trouve sa place dans la construction. Il n'y a pas de rebut. Même les graviers sont utilisés pour niveler un petit peu, pour caler un peu les pierres entre elles. Et ces pierres, bien que choisies, trouvent toutes une place. Et celles qui restent, eh bien ce sont finalement celles qui n'ont pas encore été dévoilées par les éléments, parce que en fait, les pierres, on dit que les pierres remontent par l'érosion et par le vent, la pluie, etc. Elles remontent du terrain et après, on a juste à les prendre et à les récupérer. Et donc, celles qui restent sont celles qui sont encore enfouies dans le sol. Et c'est en quelque sorte, encore une fois, c'est une image, elle est imparfaite, mais elle peut nous guider. C'est en quelque sorte ce que nous dit ce texte. Oui, les chrétiens sont un peuple choisi et rassemblé en Église. Ils forment un ensemble, une assemblée, où chacun trouve sa place, où chacun peut exercer ses dons et son service, mais ce ne sont en aucun cas les meilleures pierres du monde venant des carrières les plus prestigieuses. Est-ce que vous avez déjà vu une cabordes construite avec du marbre de Carrare, par exemple ? Non, ça n'a aucun sens. Non, ces pierres, elles sont toutes simples, elles sont également semblables et même identiques à celles qui se trouvent toujours sous terre. Mais par grâce, elles ont été choisies pour former le corps de Christ, l'Église, et chacune est appelée à faire partie de cette construction, à faire partie de la construction du Dieu vivant, même celles qui sont enfouies très profondément dans le sol. Et pour en revenir à notre texte, on peut voir également que nous sommes désignés comme des prêtres, prêtres royaux. C'est un peu un terme particulier quand qu'on n'a pas forcément l'habitude. Et ça fait en fait un petit peu opposition, entre guillemets, aux prêtres de l'Ancien Testament qui faisaient l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Mais comme on l'a vu précédemment, suite à la venue de Jésus, nous sommes tous en quelque sorte des prêtres, car nous avons tous un accès direct à Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Alors que nous étions des pierres finalement enfouies sous terre et maintenant déterrées par l'unique grâce de Dieu, nous qui sommes tous différents, nous sommes appelés à être unis pour former une maison spirituelle, la maison de Dieu, l'Église où la pierre angulaire est Jésus-Christ. Donc, la pierre angulaire est Jésus-Christ par qui nous avons un accès direct auprès du Père, auprès de Dieu. Et cette maison spirituelle que nous formons devrait toujours être l'endroit où nous pouvons trouver notre place, exercer nos dons, notre service pour le Seigneur et accomplir des actes concrets au service du Dieu vivant. Et 1 Corinthiens 12, versets 4 à 6, résume parfaitement ce que doit être notre attitude lorsque nous venons à l'Église. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Alors prenons bien conscience que nous sommes des pierres choisies pour offrir en sacrifice notre adoration, notre louange, toute œuvre bonne, mais aussi le sacrifice de nos biens et du service à Dieu. Et quant à la question offrir un culte ou assister à un culte, on peut voir au travers de ces versets que nous sommes appelés à offrir un culte d'adoration pour Dieu, à nous offrir comme des sacrifices vivants, car oui, la vie chrétienne est aussi faite de sacrifices pour Dieu, mais comme nous l'avons vu aussi, pour nos frères et sœurs dans la foi et pour notre prochain, afin de constituer une maison spirituelle à la gloire de Dieu, où chacun, bien que différent, trouve sa place et puisse refléter l'amour et la grâce de Dieu dans tous les aspects de sa vie. Alors, pour conclure, assister à un culte ou offrir un culte est une question réellement importante dans notre conception de l'Église. Elle peut changer notre perception de bien des aspects de notre vie. Et bien que l'Église d'aujourd'hui, elle soit assez différente de l'Église des premiers siècles, tout au moins sur la forme, il y a une chose qui ne doit jamais changer, c'est cette pierre angulaire. Cette pierre rejetée par les uns est trésor inestimable pour ceux qui croient Jésus-Christ qui doit être au centre de l'Église, bien sûr, mais aussi au centre de tous les aspects de notre vie. Et vous l'avez compris, la réponse tend plus vers offrir un culte à Dieu, mais gardons à l'esprit aussi que l'Église, c'est aussi un lieu où nous pouvons vivre la communion fraternelle, être encouragé par nos frères et sœurs en Christ. Mais n'oublions pas que la vie de croyant, c'est aussi des sacrifices, c'est aussi des frustrations, c'est parfois mettre de côté notre confort, aller vers les autres, s'offrir tout entier en sacrifice pour la communauté dont Christ est la pierre angulaire et le centre de toutes nos attentions, de toute grâce et de toutes nos louanges. L'Église, ça ne devrait jamais être un lieu de consommation où nous venons les mains vides en échange de quelque chose, mais un lieu à contre-courant finalement de notre société où nous offrons en sacrifice notre adoration, notre louange, toute œuvre bonne, nos biens et notre service à la gloire de celui qui nous a rachetés et sauvés. Alors, offrons un culte agréable à Dieu, venons à l'Église les mains pleines de toutes ces choses, ne venons pas consommer lorsque l'on va à un dîner au restaurant, mais au contraire, comme nous dit Paul au chapitre 12 de l'Épître aux Romains, je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Offrons-nous tout entier à Christ, qui est la pierre angulaire de l'Église, et dont chaque membre s'assemble autour d'elle pour former une unité en Christ, et où chacun peut s'investir, exercer ses dons et trouver sa place dans cette assemblée de croyants voulue par Dieu lui-même. Voilà ce que j'avais à vous partager ce matin. Et je laisse la place à Patrick pour terminer ce temps de culte.